Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Michel aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour.
Tu es lanceur d'alerte.
Ouais, j'aime bien qu'on m'appelle lanceur d'alerte. Je préfère lanceur d'alerte à sale écolo, tu vois.
Et on va parler, il y a eu pas mal de webinaires sur Fukushima, Tchernobyl, mais nous on parle rarement de chez nous en France.
C'est une très très bonne remarque. On a la chance hein, de ne pas avoir connu encore ni de Tchernobyl ni de Fukushima. Par contre en France on a un souci, on a quand même 57 réacteurs maintenant, puisqu'on en a 56 même, on en a fermé deux à Fessenheim. On est le pays au monde qui a le plus de réacteurs. Et c'est quand même un peu inquiétant parce que moi je suis certain que ces réacteurs, bien évidemment, ils rejettent des tas de cochonneries. Alors c'est officiel, hein, c'est connu, on trouve les déclarations sur Internet. Mais j'ai comme l'impression, moi, qu'autour des centrales, il y a quand même quelques soucis. Je pense notamment à Greenpeace qui a fait une carte magnifique qui explique qu'il n'y a pas un seul Français qui habite à moins de 200 km d'une centrale. Donc, bien évidemment, ils profitent des rejets. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que j'ai fait quelques études épidémiologiques parce que, je le rappelle, j'habite, hélas, à 5 km de la plus grande poubelle nucléaire du monde, hein, la poubelle de Fulaine. Et moi, je me pose des questions quand j'apprends qu'il y a en France 3 millions de Français qui mangent du lévothyrox. Et là, je me dis, ça veut dire qu'il y a 3 millions de malades de la thyroïde. C'est quand même impressionnant. 3 millions. Bon. Et là, je dis, c'est quand même à 3 millions, on est 67 millions, je crois, quand même. 3 sur 60, c'est quand même beaucoup. Bon. Puis après, j'ai un deuxième chiffre, là, que j'étudiais récemment. Il y a 3,5 millions de diabétiques. Et là, je me dis, mais attends, c'est quand même bizarre. Bon, alors, si t'étudies un peu, tu te rends compte qu'il y a d'autres pays, et je pense notamment à l'Ukraine. L'Ukraine a deux fois trop de diabète par rapport à la moyenne mondiale. Et tu te dis, mais attendez, là, en Ukraine, ils bouffent pas des haribots. Enfin, parce qu'il y a des gens qui croient que le diabète, c'est à cause du sucre et des bonbons. Mais non, non, non. Il y a des études là, qui sont claires là-dessus. Le diabète est une maladie radio-induite. Et donc, j'en arrive à cette conclusion. Bon, je te parle pas des arythmies cardiaques, etc. Enfin, il y a quantité de maladies radio-induites, vous trouverez sur Internet la liste des maladies. Il y en a un peu beaucoup en France, et notamment dans ma région. Et moi, je dis que c'est pas à cause des châteaux, parce que la France, elle a plein de châteaux. C'est pas à cause non plus des fromages, parce que la France, elle a du fromage. Non, je pense, moi, que la présence des 56 réacteurs en France, hein, qui fait de la France le pays le plus nucléarisé au monde par tête d'habitant, hein. 56 réacteurs pour 67 millions d'habitants. On a quasiment un réacteur pour 1 million d'habitants. Voilà. Enfin, c'est ma théorie. Bon, bien évidemment, les autorités, les institutions, le gouvernement vous diront que je déconne complètement.
Mais justement, donc, ces petites doses empoisonnent au fur et à mesure?
Bah, c'est le cumul. Je le répète souvent, le cumul des faibles doses, c'est moi qui ai inventé l'expression. Hein. Elle existait pas sur Internet, je l'ai découvert après coup, en faisant des recherches. Ben, le cumul des faibles doses, c'est le problème. Et quand j'explique aux gens dans une réunion, dans une conférence, et là je vais le refaire aujourd'hui, compare toujours, moi, l'addition des petites doses dans le temps avec l'alcool. Moi, tout le matin, avant d'aller au boulot, après mon café, moi je prends un petit calvol, tu vois, un petit calvol. Ben, après, j'attends l'apéro avec impatience, on va au troquet avec les copains, on fait trois tours. Un apéro de midi. Après, on passe à table, je me tape un petit bordeaux, c'est normal. Hein. Puis après, le soir, eh ben, on refait les tournées avec les copains. Je reprends un petit peu. Alors, le soir, au repas, je prends un peu de distède. J'en bois pas un verre, ni deux verres, mais il m'en faut plutôt trois. Puis l'hiver, là, comme en ce moment, où il fait pas très chaud, le soir, je me fais un bon grog, un bon bol d'eau chaude avec du tilleul, puis dedans, je mets un demi-verre de Mirabelle. Voilà, bon. Le mec qui fait ça toute sa vie, enfin, sa vie, elle va être courte, c'est clair, parce qu'il est alcoolique. Et c'est exactement la même chose avec les radionucléides. On te compare tout le temps ce que tu manges avec la radioactivité naturelle, mais on oublie de te dire que ça s'additionne. Et je ne supporte plus qu'à chaque fois que quelqu'un te dit « Oh ben la quantité au niveau de la contamination ou de l'irradiation que vous venez de subir, c'est rien parce que c'est plus petit qu'un millisievert, hein, le fameux millisievert, qui est donc la norme et qui est donc l'équivalent de la radioactivité naturelle. » Mais je ne suis pas d'accord qu'on compare avec la radioactivité naturel. Parce que c'est en plus, hein, c'est pas parce que ça fait un millisievert que c'est pas dangereux, c'est un en plus. Et j'aime bien citer Monique Sonnet, qui est une remarquable ingénieure nucléaire et qui est très très âgée maintenant, la pauvre, et qui disait dans ses conférences, un becquerel, c'est un becquerel de trop. Et c'est ça qu'il faut retenir. Hein. C'est et, maman, j'ai pris qu'un morceau de sucre. Oui, mais c'est encore un. Hein. Ça vient en plus du sucre que tu as mangé qui était dans les pommes de terre, le sucre qui était dans les fraises, etc. Et puis les jus de fruits. Il faut faire extrêmement attention à cette idée de cumul, parce que le cumul de très faible dose dans la durée, c'est du poison. Voilà, c'est comme l'arsenic, quoi. Un petit peu d'arsenic, pas grave, mais de l'arsenic tous les jours, au bout d'un moment, tu vas avoir des soucis.
Et oui, sachant que la radioactivité ne se trouve pas que dans la nourriture, elle se trouve aussi dans l'eau, partout, dans l'air. On parle beaucoup de la nourriture.
Ouais, mais là, j'insiste beaucoup sur la nourriture parce que c'est quand même une façon, comment dire, quand on est victime des radionuclides, il y a deux façons. C'est ou l'irradiation, hein, bon, et l'irradiation, c'est être en contact direct avec une source. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, sauf aux travailleurs du nucléaire, évidemment, qui vont se balader à des endroits où il faut pas aller. Et donc, ils y vont avec des combinaisons, des protections, puis en plus, ils y restent pas trop longtemps, parce qu'ils prennent des doses, comme on dit. Par contre, la contamination, elle est catastrophique, parce que elle se fait, bon, d'abord par l'inhalation, hein, c'est le radionucléide qui te rentre par les trous de nez et par la bouche. Il te rentre, les radionucléides rentrent dans ton corps également par les pores de la peau, hein, faut pas l'oublier, c'est important aussi, hein. Et ça pénètre directement dans le sang. Et puis enfin, évidemment, ça rentre par l'ingestion. Et là, c'est sournois, si tu veux, parce que t'es en train de manger du sanglier. Hein. Chez moi, il y a plein de sangliers parce qu'on a de très belles forêts. Or, les sangliers, eh ben, ils sont radioactifs. Puis c'est officiel, hein. Ça va jusqu'à 100 becquerels au kilo en césium-137. Puis c'est officiel, hein. Même les IRSN le dit clairement, hein. Ils ont fait des mesures. Et c'est normal parce que ces idiots de sangliers, ils mangent des champignons. Et les champignons, ils sont eux-mêmes radioactifs parce que les champignons, eh ben, ils pompent la radioactivité. Ils sont comme le thym, qui est un vil produit de la nature, qui sont bêtes comme leurs pieds et qui confondent le calcium avec le césium. Quand t'as un champignon qui a un petit peu de césium qui est tombé par les nuages de Tchernobyl, ou par le nuage de l'Ambra là qui rejette ses cochonneries au bout de mon jardin, et ben ça rentre dans les champignons. Et puis alors, si après tu fais le menu que j'aime bien, c'est-à-dire le sanglier, puis autour tu mets des champignons radioactifs, tu rajoutes dans la sauce un petit peu de thym. Et puis, dessert, tu prends les myrtilles, framboises, tout ce qu'on appelle des baies, qui sont extrêmes, qui adorent manger du césium. Et puis, les jours de fête, si t'as trouvé au supermarché des crevettes de Fukushima, tu vois ce que je veux dire, t'as le repas complet, là. Bon, alors, j'aime bien raconter ce menu-là, parce que c'est typique, chaque élément pris individuellement, si tu veux, à la limite, c'est pas grave, quoique, j'aime pas l'expression, radionucléide, dans le corps, c'est toujours grave. Mais là, tu les additionnes, toi, et si tu fais ça pendant toute ta vie, et j'en connais, moi, dans les cimetières que j'ai vus, et d'ailleurs, j'ai des vidéos en cours de montage, là, des gens que j'ai vus aller cueillir des champignons, parce que chez nous, dans nos belles forêts, c'est quasi un sport, hein. Moi, je connais des gens, ils en font des conserves, hein, de champignons. Bon. Donc, ils bouffent beaucoup trop de champignons, ils bouffent beaucoup trop de césium, et ils meurent d'un cancer du côlon. Hein, le cancer du côlon, c'est le cancer du champignon, quoi. C'est connu.
Oui.
Du robinet, parce que, enfin, quand tu sais qu'une bouteille de champagne contient 90%, et ça déjà, quand je le dis, des fois, on se fout de ma gueule, mais c'est la vérité. Du champagne, c'est de l'eau. Il y a 90% d'eau, puis après, il y a de l'alcool et toutes les bonnes choses qui font que c'est du champagne et que ça fait des bulles. Si tu réfléchis, tu cherches à savoir, mais d'où vient l'eau qui est dans la bouteille de champagne, et que tu remontes, tu dis, bah, évidemment, elle vient du jus, du goût, comme on dit, du pressoir. Avant, ça vient du grain de raisin, et du grain qui était accroché au chef de ville. Et là, tu comprends que l'eau qui est dans le grain de raisin, il est monté par la sève, il a été pris dans la terre, dans le sol. Et si tu réfléchis un peu, et que tu lis quelques ouvrages, tu vas comprendre que les racines des cèpes de pinard, sont extrêmement profondes, elles vont jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et ce qui explique que des étés très très chauds comme l'été dernier, hein, où il est quasiment pas tombé une goutte d'eau pendant toute la vie entre la floraison et la récolte, ben l'eau, si elle vient pas du ciel, c'est qu'elle vient de la nappe phréatique. Et tu te dis, putain, excuse-moi ton putain, quoi que c'est la mode aujourd'hui, si, réfléchis bien, s'il y a des radionucléides dans la nappe phréatique, est-ce que par hasard, il y aurait pas des radionucléides dans le grain de raisin? Et là, est-ce que la nature, elle est bête et qu'elle sait pas le tri, qu'elle monte tout? Ou est-ce qu'au contraire, elle fait attention et elle crie? Je n'en sais rien. Il n'y a pas d'études là-dessus. Bon, moi, je suis en train d'y travailler parce que, et avec précaution, parce que, effectivement, rien que le fait de raconter que je cherche là à savoir si le champagne de l'eau bien radioactif ou pas, on est mal, hein. Faut que je fasse attention à ma prochaine accident de voiture. Enfin voilà, c'est, il y a de quoi réfléchir. Et c'est pas anodin, hein, parce que c'est, ça vient encore en plus. Bon, il est vrai que, on boit, heureusement, pour la santé des gens, moins de champagne que d'eau du robinet. Et d'accord,
hein. Ça dépend qui. J'adore le champagne, moi, Michel. J'en bois au moins une bouteille par semaine. Merci beaucoup, Michel.